Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui la réalisatrice Ruth Silbermann pour son film Les Héritiers, un documentaire consacré à la génération Little, produit par Rosebud Productions avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. De Paris à New York, en passant par Florence et Dresde, vous nous faites entrer dans l'univers intime de quatre écrivains, deux Français, Yannick Hennel et Laurent Binet, un Américain, Daniel Mendelssohn, et un Allemand, Marcel Beyer. Tous appartiennent à cette génération, née bien après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60-70, et qui, je vous cite, « s'autorise à écrire, à défier les tabous de la représentation ». Avec ce film, vous prolongez un questionnement qui traverse toute votre œuvre cinématographique, qui est celui de la manière dont l'histoire s'écrit en nous. Je rappelle que vous avez fait un film sur l'héritage de 68, qui s'appelle 68 années zéro, ou encore sur les dissidents d'Europe de l'Est, dissidents, les artisans de la liberté. En préambule, pourquoi vous avez choisi de faire ce film ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est très avouable, mais c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. C'est François Bunel qui présente une émission sur littéraire sur France 5. Enfin, je n'ai peut-être pas le présenter. Hein, et qui un jour m'a proposé de faire ce film. Et après avoir un petit peu réfléchi, sachant que c'était à la fois la question de la guerre, enfin de la Deuxième Guerre mondiale et celle de la littérature, et bien finalement c'était un petit peu au confluent de beaucoup de choses extrêmement importantes pour moi, et j'ai accepté évidemment.
Et ces quatre auteurs, comment vous les avez sélectionnés ?
Alors il y avait quelque chose qu'on s'était dit avec François Bunel et avec Martine Saada qui s'occupait aussi de ce documentaire à Arte. On se disait qu'on voulait des gens qui avaient vendu des livres, c'est-à-dire qui avaient, dont le livre avait été un phénomène, qui avait provoqué de la polémique. C'était le cas évidemment avec Yannick Hennel par exemple, c'était aussi le cas avec Daniel Mendelssohn qui a eu un grand succès en France. Laurent Binet aussi avait été plutôt bien reçu par la critique. Et quant à Marcel Beyer, qui est assez méconnu en France, puisqu'il n'y a que deux livres de lui qui sont traduits, il est assez lu en Allemagne. Donc il y avait vraiment l'idée que ça devait être d'une part des écrivains appartenant à cette génération, c'est-à-dire des gens en gros entre 40 et 50 ans. Donc hein, c'était un petit peu des jeunes écrivains sur le retour, si je peux dire. Et en même temps, des gens qui n'avaient pas écrit de façon confidentielle. Et je m'empresse de dire, évidemment, qu'il y a beaucoup d'écrivains qui n'ont pas de succès public ou critique que j'aime. Mais c'était pour nous, c'est parce que on voulait analyser finalement un phénomène. Donc voilà, c'était un petit peu ces deux critères d'âge et de polémique. Alors vous me direz pourquoi...
Pourquoi pas Little,
ouais, pourquoi voilà. Pas Little, tout simplement, il y a deux personnes en fait dont j'aurais aimé qui figurent dans le film. C'est d'une part évidemment Jonathan Little, avec lequel enfin, j'aime pas nécessairement son livre, mais en tout cas je pense qu'il aurait été extrêmement intéressant d'en parler avec lui. On s'est rencontrés et il a réitéré un refus qui est assez, que je comprends, constant, qui est le refus de toute apparition télévisuelle. Il a un principe qui est qu'on ne parle pas d'un livre, en tout cas que son auteur n'a pas à défendre un livre, on lit un livre. Bon, ça lui appartient. Et quelqu'un que je regrette plus, qui aurait été la femme de ce film, qui en manque cruellement, même si j'y suis en quelque sorte, c'est
Nicole Krauss,
dont j'avais énormément aimé ce livre qui s'appelait Histoire de l'amour, je crois, ou Une histoire de l'amour. C'était un assez mauvais titre, mais le livre était extrêmement intéressant et à mon avis d'ailleurs un des plus intéressants. Et justement, donc produit par une femme née au milieu des années 70 et qui interrogeait quelque chose qui me semblait assez fondamental et que j'ai essayé évidemment d'interroger au travers du film, qui est la question de la distance, la question de ce que j'appelle l'intervalle, c'est-à-dire la manière dont tous ces auteurs, d'une manière ou d'une autre, finalement interrogent la distance qui les sépare de l'événement.
Qu'est-ce qui pousse ces auteurs à écrire sur la Shoah, plus largement sur la Seconde Guerre mondiale ? Tous n'écrivent pas précisément sur la Shoah. Dans le film, à un moment donné, vous parlez d'un déclic. Vous demandez en quelque sorte au début à chacun quel est votre déclic. Est-ce qu'on peut
on peut le refaire pour chacun, pour Marcel Beyer, pour Yannick Enel, ce déclic qui...
Écoutez, enfin, il y a déjà quelque chose que je voudrais dire, c'est-à-dire que... Comment le formuler ? Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait pas mal de livres qui étaient écrits, et pas d'une façon... Peut-être que ça irait trop loin de dire de façon opportuniste, mais qu'il y avait aussi tout simplement un phénomène éditorial, c'est-à-dire que, ne nous le cachons pas, la Deuxième Guerre mondiale fait vendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé frontalement, puisqu'on parle de déclic, parce que c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en considération. J'aurais pu le faire de façon plus directe, et en même temps, c'est vrai que j'ai choisi de prendre chacun de ces écrivains, que j'aime ou pas leurs livres d'ailleurs, au sérieux. C'est-à-dire de les interroger, de leur dire, voilà, vous êtes finalement les héritiers. Et quand je parle d'héritier, ce n'est pas simplement évidemment d'un héritage familial. C'est un héritage au sens large, c'est un héritage mémoriel, un héritage historique. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont lu un tas de livres, c'est des gens qui ont vu des films. Donc je me suis dit, je vais les prendre au sérieux et savoir qu'ils soient juifs ou non. Et donc il y en a qu'un qui est juif, c'est Daniel Mendelsohn. Finalement, pourquoi, en effet, tout à coup leur vient l'envie d'écrire? Alors évidemment, tout dépend d'où on parle, comme dirait l'autre. Daniel Mendelsohn, il est extrêmement clair que c'est quelque chose par quoi il est habité depuis l'enfance. C'est quelque chose qui est presque organique. Et c'est quelque chose qu'il exprime très bien d'ailleurs dans le film. C'est-à-dire, c'est presque comme un enfant. Il dit, mais pourquoi manquait-il une pièce dans mon arbre généalogique ? Marcel Beyer, qui est allemand, et qui est quelqu'un, et je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est un Allemand de l'Ouest, qui est né dans les années 60, et puis qui s'est installé en RDA. Enfin, pardon, qui s'est installé en Allemagne de l'Est après la chute du mur, mais extrêmement tôt. Et je pense que pour quelqu'un qui venait d'Allemagne de l'Ouest, où finalement il y avait d'ailleurs un double mouvement entre une mémoire officielle et de repentance extrêmement présente, et finalement un silence assez fort au sein des familles, mais où finalement la trace des choses n'était pas manifeste. Et c'est des gens qui découvrent avec la chute du mur en Allemagne de l'Est comme une terre figée, comme une terre gelée, avec des traces qui sont là depuis 1945, et donc qui affrontent, même dans le paysage urbain, même dans la topographie, quelque chose qui avait disparu finalement à l'Ouest. Et à mon avis, à cet égard... Je suis persuadée que, évidemment, que le 89 a produit en littérature plein de réflexions sur la chute du mur, mais que ça a permis aussi pour des jeunes générations d'écrivains de l'Ouest de finalement repartir face à cette... Je veux dire, il m'a raconté, quand il est arrivé à Dresde pour la première fois dans les années 90, il faut savoir qu'il y avait des ruines qui étaient intactes, qu'on se promenait dans le centre de Dresde comme si on était au lendemain du bombardement. Il y avait des choses qui avaient été préservées en tant que ruines, et puis des choses tout simplement qui n'avaient pas été reconstruites.
Et donc, vous y promenez d'ailleurs avec lui.
Oui.
C'est ça qui est bien dans votre film, c'est qu'on va sur les lieux de mémoire en quelque sorte. Enfin, en tout cas, les lieux.
C'est pas des lieux de mémoire, c'est
qui sont marqués par.
Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est le contraire du lieu de mémoire. C'est-à-dire, je pense que le lieu de mémoire, c'est
de
un
mémoire
lieu...
involontaire. Enfin, je veux dire, où il reste des traces.
Mais c'est très important.
Non, tout à fait.
Le lieu de mémoire, c'est le lieu où on vous oblige à vous souvenir.
Tout à fait.
Et je pense que ce que j'essaie de faire dans le film, c'est précisément de trouver ces instants ou ces lieux où, enfin, là, je ne suis pas, je suis pas la première à le dire, mais où il y a tout à coup quelque chose qui ressurgit. C'est-à-dire, c'est ça que j'appelle le déclic, finalement. C'est un mouvement de pensée, un mouvement d'imagination qui, finalement, n'obéit pas, même si on est malgré tout enserré dans un contexte sociologique, historique, on vient pas de n'importe où, mais qui, finalement, n'obéit pas à une injonction mémorielle.
Alors, pour Yannick Enel, par exemple, c'est Nuit et brouillard qui constitue le déclic. Et puis ensuite, c'est intéressant, il raconte, dans votre film, une expérience, on pourrait dire, de transmission impossible. Il n'arrive pas à faire lire Primo Levi à ses élèves.
Oui, je trouvais ça très intéressant.
Et donc, il leur projette Karski. Le passage de Shoah, l'entretien de Lanzmann avec Karski.
Et je trouvais ça extrêmement intéressant, finalement. Bon, alors parce qu'on sait, je rappelle juste pour les auditeurs qu'il y a une énorme polémique autour du livre de Yannick Enel. Il a été accusé par beaucoup de... Je pense d'abord d'opportunisme, précisément, et ensuite d'avoir, d'avoir falsifié l'histoire de Jan Karski. Bon, on pourra y revenir plus tard. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que en discutant avec Enel, qui est donc un type né à la fin des années 60, je me suis dit, bah, voyons voir que quelqu'un qui a grandi dans l'Est de la France, et qu'est-ce que ça veut dire pour lui, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui n'a pas d'attache familiale, qu'est-ce que c'est le contact avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah. Et c'est une expérience finalement extrêmement partagée, mais par toute une génération. Mmh. C'est nuit et brouillard. Alors lui, il l'a vu à l'école primaire, moi je me souviens l'avoir vu un petit peu plus tard. Mais ça veut dire qu'on voyait nuit et brouillard dans les écoles primaires. Donc ça veut, c'est quelque chose qui vous arrive comme ça. Et que, quand on n'est pas relié à cette histoire, qu'est-ce que ça vous fait? Et lui, évidemment, pour lui, c'est un choc initial. Et ensuite, je trouvais extrêmement intéressant que sa découverte de Jan Karski et finalement sa découverte de la destruction des Juifs d'Europe, elle se soit produite justement dans un moment où lui essayait... Et il n'était pas particulièrement, il connaissait pas particulièrement la question, où lui, finalement, lui demandait, ses élèves réclamaient ça. Enfin, réclamaient, c'est-à-dire leur ignorance réclamait ça. Et donc, tout à coup, c'est un jeune prof qui se confronte, qui regarde Shoah. C'est un jeune prof qui commence à regarder des, à regarder des films, à lire des livres. Et voilà, c'est un cheminement extrêmement prosaïque, finalement, mais qu'on se doit d'interroger aussi. Un petit peu sociologique, finalement.
Avec la question qui est comment transmettre, qui est la question de son livre aussi. Puisque Karski, c'est celui qui veut transmettre à ceux qui ne veulent pas entendre, en quelque sorte. Et c'est là qu'on voit, grâce à votre film, que sa démarche est vraiment profonde, intime, pensée, sincère. Voilà.
Oui, je crois qu'elle est vraiment sincère. Je suis
c'est un des mérites de votre film, c'est aussi ça, je veux dire.
Ça, je le crois.
De dépasser la polémique et de montrer voilà, la sincérité de cet homme et de sa démarche.
Et c'est ce que je vous disais
quoi
tout
qu'on
à
pense du livre.
Oui, c'est-à-dire que je pense que très souvent, ces polémiques jaillissent et... Peut-être que c'est bien d'ailleurs, hein, parce que ça nous fait réfléchir, même si je les trouve extrêmement rituels, extrêmement répétitives, et finalement toujours autour des mêmes... c'est toujours l'historien versus l'écrivain.
Voilà, les devoirs, les droits du romancier.
Oui, c'est-à-dire, à mon avis, c'est assez mal... C'est pas toujours extrêmement bien formulé. Enfin, toujours est-il que oui, je pense que, par exemple, Yannick Enel, après qu'on ça m'empêche pas, moi, d'émettre des critiques sur son livre, que je lui ai dites, d'ailleurs. Mais je pense que c'est une démarche intéressante. Et c'est quelque chose, que j'ai dit déjà. Mais par exemple, moi, je me souviens avoir acheté le livre... un petit peu inquiète parce que j'allais y trouver. Et à mon corps défendant, je dois dire que quand j'ai lu la première partie, qui est finalement sur la place du spectateur, d'un spectateur de 30 ans de Shoah, eh ben, j'ai été très intéressée par ça. Je trouvais que c'était une réflexion extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que je pense que voilà, les polémiques qu'il y a eu par la suite, où on a dit, bah voilà, finalement, cette première partie où il se décrit en spectateur de Karski, on a dit que c'était un plagiat pur et simple de Shoah. Moi, je ne pense pas du tout que ça soit le cas. Mais vous avez raison. Après, la question de cette sorte de témoin du témoin, enfin, cette sorte de concept qu'il a élaboré, c'est quelque chose... à quoi on doit réfléchir, je pense qu'il est compliqué. Mais en tout cas, il faut qu'on y réfléchisse. Parce que, oui, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enfin, c'est une question qui se pose à nous tous. Donc ensuite, voilà, est-ce que c'est une place abusive? Est-ce qu'il peut s'appeler témoin du témoin? Ou entendeur du témoin? Ou transmetteur du témoin? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça, pour moi, ça a le mérite de poser une question tout à fait légitime. C'est-à-dire que pour moi, surtout, les questions que tous ces gens, enfin, pas tous, hein, encore une fois, je pense qu'il y a énormément d'opportunisme, qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels, finalement, la guerre, c'est une sorte de belle histoire.
Alors justement, on pourrait parler de Laurent Binet, là, parce que c'est le plus jeune là, des quatre écrivains, donc l'auteur de HHHH, prix Goncourt des lycéens, grand succès de librairie. Vous écrivez, c'est celui qui me semble regarder cette guerre-là dans une interview à l'Arche là, qui va paraître. C'est celui qui me semble regarder cette guerre-là comme on pourrait regarder la guerre de Troie. Un événement épique, éternellement inspirant, mais dont on est détaché affectivement.
Oui, alors j'ai peut-être été un peu loin, parce que je pense que Binet, probablement que la guerre, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai, ceci dit, que je pense que c'est celui qui est né dans les années 70. Alors évidemment, il fit, ça il le rappelle dans le film, hein, de tout ce qui a suivi le chagrin et la pitié, enfin, d'une génération qui a vu aussi toutes les polémiques autour de la collaboration, Mitterrand-Bousquet, enfin, je veux dire, c'est des choses, j'imagine, qui rappelleront un tas de trucs à nos auditeurs de son âge. Mais c'est vrai, je pense que voilà, c'est un événement épique.
L'assassinat de, donc, pour, on rappelle rapidement, c'est l'assassinat de Heydrich, donc par deux résistants tchécoslovaques qui vont trouver la mort encerclés par 716 dans une église Pragoise. Et Laurent Binet vous dit dans le film, cette histoire-là était fascinante parce qu'elle était extrêmement romanesque, il y avait de l'action, du suspense, de l'émotion, des morts. Alors, du coup, on va en venir à la question des moyens littéraires qui sont différents pour chacun et du rapport à la fiction. Chez lui, même s'il dit qu'il est travaillé par la tension entre l'envie d'être fidèle à la vérité historique et une pulsion de romancier, malgré tout, il assume quand même assez bien la fiction.
Non. Ah, pas du tout.
Vous trouvez qu'il ne l'assume pas via ce dispositif
Oui, il a un dispositif comme ça, réflexif, où il se regarde en train d'écrire, où finalement il signale à chaque fois au lecteur ce qui est de l'ordre de ce qu'il appelle la vérité historique et ce qui est de l'ordre de la fiction. Non, c'est quelqu'un qui a un rapport, au contraire, je pense, très...
Oui, mais de ce fait, il la justifie finalement. Il justifie sa position, qui est d'avoir recours à la fiction via cet élément réflexif qu'il introduit, cette façon de se commenter lui-même.
Non. Oui, bien sûr. Enfin,
mais bon, je suis d'accord avec
vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un, mais il l'a dit lui-même, qui veut un petit peu le beurre et l'argent du beurre.
Voilà.
C'est-à-dire, il veut en même temps faire de la fiction et en même temps dire, ah ben non, vous regardez quand même, moi, je suis fidèle aux faits historiques et je fais de la fiction, mais je vous dis que c'est de la fiction. Voilà, c'est pas nécessairement ce qui...
Alors peut-être que ça serait Marcel Beyer qui, lui, est dans la fiction de plein pied.
Oui.
Et qui, d'ailleurs, en parle de façon très intéressante, quoi. Il parle de ses scrupules, par exemple, à prêter à son personnage de tortionnaire ses propres souvenirs d'enfance. Comment il...
Je sais pas s'il parle de scrupules. Il est surtout très mal à l'aise.
Très mal à l'aise, ouais.
Ce qui est très intéressant avec Marcel Beyer, donc qui est l'auteur de deux livres traduits en français, un magnifique qui est malheureusement difficilement trouvable, mais qui s'appelle Les Voix de la nuit, et l'autre qui s'appelle Kaltenburg, qui est paru peut-être il y a un ou deux ans chez Métellier, me semble-t-il, et qui est pour moi une voix littéraire extrêmement intéressante. Et donc qui parle dans Les Voix de la nuit, hein, il invente un personnage d'ingénieur du son, enfin de type qui travaille le son, qui commence par travailler les discours de Hitler, qui est l'ingénieur du son des discours de Hitler, et puis qui progressivement va commencer à enregistrer des prisonniers torturés, etc., où le son et le prisme par lequel est vu le totalitarisme et le nazisme. Et c'est extrêmement fort. Et puis, il y a quelque chose de parallèle avec l'itinéraire, finalement, de cet homme, et travaillé par Beyer en parallèle avec celui de la fille aînée de Goebbels, dont on sait qu'elle a été tuée, comme tous les enfants de Goebbels, avec Goebbels, dans le bunker de Hitler, dans les derniers jours de 1945. Pardon pour cette longue introduction. Mais oui, Beyer, c'est un romancier. C'est-à-dire, en effet, il a un personnage réel qui est la petite Goebbels. Et il invente ce personnage, mais il invente cette métaphore, à mon sens, extrêmement forte, de la voix et du souffle. Et il n'a aucun problème. Et quand vous parlez de scrupules à utiliser ses souvenirs d'enfance, c'est surtout qu'il sent très mal, en fait. Il se sent surtout très mal. Il se dit, mais mon Dieu, ça c'est pas des scrupules, c'est que ça l'angoisse.
Parce que sa démarche, c'est vraiment de se glisser dans la peau d'un nazi, finalement, enfin d'un bourreau, d'essayer de voir avec ses yeux, pour favoriser l'identification du lecteur. il dit, moi, je dois entièrement reconstruire mon nazisme. Je ne peux pas m'appuyer sur des récits qui soient autre chose qu'un reniement du passé. En gros, je ne peux pas transmettre des histoires qu'on m'a racontées, je dois les reconstituer, les inventer même, complètement. Le choix de la fiction, il est vraiment là aussi nécessaire. Il est lié à la nécessité que le lecteur s'identifie pour revivre le passé nazi. Le passé ne soit pas clos. Je ne sais pas si
oui,
je me fais comprendre. Ce qui n'est pas la démarche de Mendelssohn.
Je ne sais pas. Enfin, parce qu'il y a d'autres livres de Beyer. Enfin, je ne sais pas si c'est un processus comme ça d'identification. Ça me paraît un tout petit peu plus complexe que ça. Enfin, on ne va pas faire une thèse sur Marcel Beyer.
Non, c'est parce que. Enfin, c'est d'après ce que je comprends de son interview. Hein, mais...
C'est-à-dire, ce qui est extrêmement important pour lui, en effet, c'est de tenter d'être. En résonance de sensations.
Voilà.
Ça, c'est sûr. Et en même temps, c'est quelqu'un pour qui le passé est un puzzle, pour qui le passé est quelque chose qu'on regarde comme une scène primitive par le trou de la serrure et dont on n'a évidemment qu'une image incomplète. Et il assume cette incomplexion nécessaire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est dans une sorte de promesse d'identification totale à une époque, parce que c'est impossible. Enfin, parce que c'est impossible, mais il n'est pas, vous voyez, dans une sorte de roman réaliste, c'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui travaille à la fois la tentative de la sensation qui ne soit pas simplement rétrospective, enfin, pas quelque chose d'abstrait, et qui, en même temps, voit, et c'est quand même un grand lecteur de Claude Simon, l'histoire comme quelque chose, enfin, l'histoire comme aussi une quête incomplète, nécessairement. Je ne sais pas si je me suis très bien fait comprendre.
Si, non, bien sûr. Alors, on va en venir à Mendelssohn, parce qu'en lui, il est hyper conscient, on va dire, des problèmes que pose l'écriture de la Shoah, on pourrait dire. Alors, il les cite, ces problèmes. Il y a le problème de la représentation, il y a le problème de la dramatisation, le problème de l'esthétisation de la souffrance d'autrui. Et il dit, ma réponse à ces problèmes a été de donner voix à cette inquiétude dans mon livre, donc cette démarche réflexive dont on a parlé... Pour Binet,
oui. Pour Enel, enfin, pour on Enel, sent, oui. De toute façon, voilà. On sent qu'il se borde un tout petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que, pardon, je vous laisse
finir. Non, il dit, ai-je le droit de romancer? Ai-je le droit de deviner ce qui leur est arrivé, donc aux six membres de sa famille, d'imaginer les derniers moments de mon grand-oncle? Au bout du compte, ma réponse est non, bien sûr. Il répond non. Ai-je le droit de romancer?
En même temps, c'est pas un romancier, hein, Mendelssohn. Donc, quand il dit ma réponse est non, c'est pas non plus un romancier, parce que Nicole Croze dans Histoire de l'amour, alors elle parle pas de son grand-oncle. Enfin, c'est pas. Mais enfin bon, il choisit quand même. C'est de la non-fiction, son type de littérature, Mendelssohn. Dans ce que j'avais commencé à vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que en effet, ce qui est très intéressant dans cette génération, c'est que c'est une génération hyper consciente et qui donc est toujours dans une démarche extrêmement réflexive sur ce qu'elle fait. C'est vous-même qui me parliez du fait que, évidemment, c'est devenu une sorte de topos, quoi, de ce type de littérature, que les types se disent « est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai... » Alors, en effet, c'est quelque chose que Mendelssohn a formulé de façon très forte, et d'autant plus forte, je crois.
Et inaugural, d'une certaine façon. C'est un des premiers à le faire
Absolument.
De façon aussi radicale et systématique, je veux
Absolument.
Dire.
Et je pense aussi que ce qui est très beau chez Mendelssohn, c'est que finalement, il relie toujours ces questions-là à des questions littéraires de notre rapport à la littérature et à la représentation plus large, dans son usage extensif de la littérature antique.
Des mythes, etc. Qu'il convoque dans l'interview qu'il vous donne.
Absolument. Et il y a des passages extrêmement beaux. Et donc, finalement, on n'est plus dans cette sorte, si vous voulez... Moi, parfois, j'ai l'impression un petit peu d'étouffer. Dans ces débats incessants de littérature, de la Shoah, représentation, etc. Je pense qu'il faut être à la fois dans une forme de respect peut-être, mais en tout cas de liberté, mais surtout que ces questions qui se posent en ce qui concerne la littérature de la Shoah, et là je mets 150 000 guillemets, mais c'est des questions qui se posent à tout écrivain. Enfin, bien sûr, il y a une spécificité de la Shoah, c'est-à-dire quand il parle d'utiliser la souffrance d'autrui. Enfin, de qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance d'autrui ? Là, c'est une souffrance tellement radicale. Mais ça ne se pose pas que pour la Shoah. Et c'est ça que j'aime chez Mendelssohn.
Merci Ruth Zilbermann. Je rappelle que votre film Les Héritiers sera diffusé sur Arte dans les prochaines semaines. Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche prochain. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radiorcj.info, www.mémoirevive.net.